Chapitre 44. Charcot affola le compteur de vitesse. Il dépassait les 140 km/h sur une route à 90. À deux reprises, pour des virages avalés trop vite, il crut se tuer. Désormais, le point ne bougeait plus, enfoncé dans la forêt. Le punisseur avait dû se garer. Un autre compte à rebours venait de s'enclencher. Charcot devinait la terreur de Nicolas. On l'emmenait dans la gorge humide des bois pour le balancer dans une arène glaciale. Bélanger avait assisté à l'autopsie. Il avait vu ce corps nu, mutilé, et la taille des morsures. Il savait à quoi s'attendre. Tout en conduisant, Charcot ôta la sécurité de son SIG posé sur le siège passager. 12 minutes plus tard, il se gara à côté d'un van noir. À l'endroit où il avait stationné le jour de la découverte du corps de chevalier. De mémoire, 800 mètres de marche l'attendaient jusqu'à la fosse. Autour, la forêt s'était refermée et de son emprise farouche s'exhalaient des odeurs de champignons et de mousse verte. Elle se dressait comme un adversaire de plus à combattre. Pistolet en main, le flic s'élança droit devant, à travers cette armée de lances érigées vers le ciel, crevant ce rempart comme une balle dans la nuit. Il essaya de se rappeler le chemin, sans lampe, à l'instinct brut. Longer un boyau de randonnée, continuer tout droit après un grand virage vers la gauche, dénicher les étangs enfouis derrière leurs remparts de glycéries et de rubaniers. L'eau saumâtre se mit à luire, telle une lame, quand il s'en rapprocha. Il était à mi-chemin. Il contourna les flaques oblongues par la gauche, poursuivit rageusement sur 300 mètres avec l'espoir de ne pas trop dévier de la bonne trajectoire. Charcot jetait toutes ses forces dans cette course à la survie, à s'en éclater le cœur, à un point tel qu'il lui sembla respirer à travers une paille. L'adrénaline le fouetta quand lui parvinrent des aboiements. Les cris fendaient l'armure de la forêt, partout, nulle part, comme poussés par la nuit elle-même au cœur de cet infini champ de bataille. Le chien était là, et le chien avait faim. À chaque pas, à chaque inspiration douloureuse, les arbres surgissaient, fonçaient vers lui en une armée inorganisée, et il esquivait tel un boxeur, agressé par la boue, les fougères, les racines. Plus loin, il reprit son souffle, les mains croisées sur les genoux, un feu roulant dans ses poumons, si ardent qu'il ne se rendit pas compte tout de suite que les aboiements avaient cessé. Tout était devenu beaucoup trop calme. Un mot lui vint à l'esprit. « Chasse ». Charcot se figea avec la rapidité d'une proie. Il y eut un bref feulement sur sa droite. Un bruit de feuilles gorgées d'eau qu'en chiffonne. Il vira d'un quart de tour, l'arme braquée, mais l'obscurité se dressait en un mur circulaire. L'animal pouvait sans doute le voir, le sentir, et lui était aveugle, piégé avec son pistolet oscillant dans sa ligne de visée à cause de son essoufflement. Soudain, il perçut une sorte de galop, au rythme de plus en plus lourd, un quatre-temps parfait qui lui arrivait par une seule oreille. Derrière lui. Il pivotait à peine, la trajectoire du canon d'acier décrivant un arc de cercle, qu'une gueule surgissait entre ciel et terre, deux arcs d'émail séparés par un gouffre insondable. Au-dessus de l'ovale des mâchoires, deux flaques noires d'hiver brillaient, protégées par des structures osseuses complexes. Charcot ouvrit le feu. Une longue pression sur la queue de détente, une plus courte juste derrière. Le parfait double coup qu'on apprenait dans toutes les écoles de police. La forêt s'illumina. Une fraction de seconde, un instantané de poudre qui fit flamber l'énorme masse suspendue dans les airs. Le corps inerte du staff glissa dans les feuilles mortes jusqu'à s'écraser contre un tronc. Les muscles disproportionnés bougeaient encore sous le pelage. On eût dit des flancs posés sur des assiettes vacillantes. Une balle siffla pas loin. Une autre éclata l'écorce d'un chêne à deux doigts du visage de Charcot. le canon crachait sa mort à une dizaine de mètres par le côté droit. Frank se réfugia derrière un tronc et répliqua un double coup au jugé. Sous son blouson, son corps fumait de transpiration. Les herbes bruissaient. L'adversaire se déplaçait en coup de vent. Où était la fosse? Courbé, Frank gonfla ses poumons et fonça droit devant lui, jaillissant de tronc en tronc. Une pluie de mitraille se déversa autour de lui. Il haleta, dos contre un arbre, arme plaquée sur sa joue droite. Partout, ça sentait la poudre chaude, le cuivre tiède et ses entêtantes odeurs tanniques. Il remarqua à ses pieds des morceaux de rubalise entremêlés à la végétation. Et aperçut alors, 3 mètres devant, le tombeau, plus noir encore que la terre elle-même.
« Nicolas !»
Pour réponse, il perçut un grognement lointain, une plainte étouffée. Nicolas était vivant, là, dans le trou. Dieu merci ! Mais dans quel état ? Depuis son refuge, Charcot balança un bâton à l'aveugle. Une balle gicla.
« Ça ne sert à rien !» cria le flic. « Les renforts vont arriver !»«
Va te faire foutre ! Tu n'arrives !»
Un roulement de cris et de sommations couvrit sa voix, et tout explosa dans un feu d'artifice de jaune cru. Les flambées de poudre convergeaient vers le même point, les balles sifflaient, heurtaient le bois, cisaillaient les pousses. Charcot s'était assis contre un tronc à revers, les genoux repliés contre son torse. Le festival dura une dizaine de secondes avant qu'un « cessez-le-feu » claque dans l'obscurité et que la forêt enfin se taise.
« Cible au sol !»
s'écria ensuite une voix.
« Cible au sol !»
Charcot s'élança vers la fosse alors que des lampes virevoltaient comme des lucioles. 3 collègues de la BRI apportèrent la lumière. Nicolas était couché en chien de fusil au fond, pieds et poings liés, le visage boueux, bâillonné par plusieurs épaisseurs de Chatterton qui lui encerclaient la tête. Frank se laissa glisser contre le bord et le sortit de sa prison avec l'aide des hommes. Ils le libérèrent de ses entraves et Nicolas poussa un cri quand le ruban adhésif qu'on tira lui arracha des cheveux et de la peau des lèvres.
« Si tu gueules, c'est que t'es vivant. Rien de cassé ?»«
Alex !»«
Hors de danger !»
Bélanger serra les mâchoires, semblable au boxeur après une victoire en demi-teinte, et frappa d'un geste amical dans l'épaule de Charcot.
« Il m'a tasé quand j'ai vu qu'Alex ne revenait pas et que je suis sorti. J'ai vraiment cru que c'était fini cette fois. »
Il ne dit plus rien. Resta là, immobile, une 20aine de secondes. Puis il avança vers la masse inerte que les lampes éclairaient. Le punisseur gisait contre des racines, les yeux et la bouche ouverts. Son crâne en pain de sucre luisait, et 3 fleurs brûlées creusaient son bombeur au niveau de la poitrine. Plus loin, un collègue pointait son faisceau vers le chien.
C'était la mort en face, ce clébard.
Il se tourna vers Charcot et l'emmena à l'écart. Au sol, des douilles fumaient encore.
Il allait lâcher sa bête sur moi. Si t'avais pas été là, je serais mort. Tu m'as sauvé la vie. Encore. Je ne sais pas comment.
Charcot leva une main ouverte.
Ce qui compte désormais, ce n'est pas que tu te contentes d'exister, mais que tu vives. Tu pourras faire ça pour moi à partir de maintenant? Vivre?
Nicolas n'était pas sûr de comprendre où Charcot voulait en venir et pourquoi il philosophait dans de telles circonstances.
« Je vais aller voir Alex. »